Radio Orion, bonjour à tous. Votre rendez-vous d'information, Loïc Barrière. Au sommaire de ce point d'actualité, la tempête qui s'est abattue au Proche-Orient a des conséquences dramatiques à Gaza. De très nombreuses familles ont été touchées par les intempéries. Aux États-Unis, la Chambre des représentants a voté l'abrogation de la loi César qui imposait des sanctions à la Syrie. Le texte doit passer au Sénat. Enfin, dans notre dossier du jour, nous ferons le point sur les enlèvements de masse d'enfants qui se déroulent régulièrement au Nigeria. Entretien avec le spécialiste de l'Afrique, Sedi Kaba. La situation humanitaire s'est aggravée dans la bande de Gaza cette nuit en raison des intempéries. Des Gazaouis ont été évacués par la défense civile à cause d'inondations provoquées par la tempête Byron qui s'est abattue sur la région. De très nombreuses familles sont désormais contraintes de vivre dans des tentes inondées. Certains abris ont même été emportés par des rafales de vent. Ces mauvaises conditions météo devraient durer jusqu'à demain. Israël a ouvert le principal point de passage entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie. Il s'agit du poste frontière d'Allenby qui était fermé depuis plus de deux mois. C'est par là que passe l'aide humanitaire à destination de Gaza. Hier, 20 camions sont passés. Aujourd'hui, une cargaison de sable sera acheminée pour le secteur de la construction. Le Hamas sera désarmé et Gaza sera démilitarisé. C'est ce qu'affirme un responsable israélien en réponse à la proposition de Khaled Meshal dans un entretien à El Jazeera. Ce responsable du Hamas a proposé de geler l'armement du Hamas. Il s'est dit ouvert par ailleurs à la présence d'une force internationale de maintien de la paix à la frontière entre Gaza et Israël. Après avoir accusé Israël de génocide, Amnesty International accuse pour la première fois le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens d'avoir commis des crimes contre l'humanité. Dans un nouveau rapport, l'ONG documente en détail le massacre des civils israéliens par des groupes palestiniens le 7 octobre et par la suite. La Chambre des représentants américaine a levé les sanctions imposées à la Syrie en vertu de la loi César, des sanctions qui avaient été adoptées en décembre 2019 pour punir le régime de Bachar el-Assad. Mais le texte doit encore être examiné par le Sénat. Enfin, l'opposante vénézuélienne et prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado, est apparue en public pour la première fois depuis 11 ans ce matin à Oslo. Elle est arrivée hier soir en Norvège après avoir quitté son pays dans des conditions encore mystérieuses. En son absence, c'est sa fille qui a reçu hier son prix Nobel et a lu sa lettre de remerciement. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Dans quelques instants, le dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, c'est le dossier du jour, les raptes de masse au Nigeria. Une centaine d'écoliers enlevés le mois dernier dans une école catholique du pays sont de retour dans leur famille. Ils avaient été enlevés par des hommes armés. Le gouvernement d'Abuja a obtenu leur libération et les a remis lundi aux autorités locales de Mina, dans le centre nord du pays. Fin novembre, l'association chrétienne du Nigeria avait fait état de 303 élèves et 12 membres du personnel enlevés. Les autorités n'ont pas révélé comment les enfants, âgés pour la plupart de 17 à 17 ans, ont été libérés. Cette attaque s'inscrit dans une série de kidnappings de masse. Elle rappelle l'enlèvement des lycéennes de Chibok en 2014. On écoute Sedik Abba, président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel.
C'est une économie criminelle importante qui s'est mise en place avec ses commanditaires, ses coursiers, ses démarcheurs. Cette économie criminelle s'est mise en place depuis un moment au Nigeria et elle est très lucrative pour ceux qui s'y adonnent. On remarque que pour la plupart, ces jeunes adolescents sont des élèves et des étudiants qui sont enlevés parce que ceux qui les enlèvent partent du principe que ce sont les enfants de l'État, comme on dit là-bas, puisque ce sont des élèves et des étudiants, que l'État va payer une rançon en échange de leur libération. Une première expérience a été faite, une deuxième, une troisième, et puis il s'est mis en place cette économie avec des sommes importantes qui sont réclamées à l'État fédéral et qui finalement finit par payer cette rançon à des criminels, à des bandes qui se sont organisées pour enlever ces enfants. Et du coup, comme il y a beaucoup de personnes qui ont intérêt dans cette activité, que ce soit des intermédiaires, que ce soit dans les rangs de l'État, puisqu'il y a des gens qui prélèvent dans ce que l'État donne, on comprend la persistance de cet enlèvement de masse des enfants.
Et donc il n'y a pas de motivation idéologique, les motivations sont uniquement économiques, c'est ce que vous nous dites?
Absolument, absolument. À part dans des rares cas où vous avez bien rappelé dans le chapeau, dans le cas de Chibok, où l'enlèvement a été opéré par le groupe Boko Haram à l'époque, pour les autres enlèvements qui ont suivi, dans la plupart ce sont des enlèvements crapuleux, avec en arrière-plan l'appât du gain, le souci de pouvoir gagner de l'argent auprès de l'État fédéral, puisque au final c'est l'État fédéral qui finit toujours par payer la rançon pour la libération de ce jeune gens-là.
Et là on ne sait pas comment ces enfants, ces élèves, ces enfants et adolescents ont été libérés.
Oui, vraisemblablement, puisque l'État n'a pas été très bavard dans les conditions de leur libération. Et il pourrait s'agir d'une libération en échange du paiement d'une rançon. Parce que s'il avait été conduit une action militaire et policière de leur délivrance, l'État aurait communiqué davantage là-dessus. Mais le fait que l'État soit très discret sur les conditions de leur enlèvement m'amène à penser, en tout cas au regard de l'expérience que j'ai dans cette activité, dans la documentation et la recherche sur ces activités criminelles au Nigeria, m'amène à penser qu'il s'agit d'une libération en échange d'une rançon. Parce qu'en annonçant les conditions et en dévoilant un peu le montant de la rançon, ça pourrait encore susciter d'autres vocations, d'autres personnes qui pourraient s'y rendre. Donc l'État est resté discret. Il a simplement dit que les enfants ont été libérés, vont être rendus à leur famille, en attendant aussi de négocier, puisque ça représente une petite partie seulement des enfants qui ont été enlevés ces derniers temps.
Et pourquoi le Nigeria particulièrement est la cible de ce type de crime?
Oui, parce que l'industrie du crime est très développée. Au Nigeria, c'est à peu près 215 millions de personnes. C'est le pays le plus peuplé d'Afrique, avec une criminalité qui était installée depuis longtemps, qui s'est développée aussi et avec aussi de services de sécurité qui ne sont pas à la hauteur de l'immensité du pays et des défis qu'il connaît. Pour lutter contre une criminalité organisée comme celle-là, je crois qu'il faut des services spécialisés, il faut des méthodes aussi qui sont éprouvées. Et je crois que c'est cela même, à mon avis, qui a amené le Nigeria à solliciter l'expertise de la France. Parce que, comme vous savez, le président Tinubu a sollicité son homologue français, qui a répondu favorablement dans l'accompagnement à la lutte contre l'insécurité. Et je crois qu'un des apports que la France va avoir, c'est apporter le savoir-faire face à une criminalité organisée, sophistiquée.
Cédric Abba, président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel, au micro de François-Xavier de Calonne. C'était le dossier du jour. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Radio Orient.